France Musique.
Florissant sous la direction de William Christie, c'était le début du deuxième acte d'Idoménée d'André Campra. Bonjour Laurence de Cobert.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, conservatrice en chef au département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Et vous avez édité avec Denis Herlin, qui est directeur de recherche au CNRS, cet épais ouvrage consacré aux origines des collections musicales de la Bibliothèque nationale de France 1680-1815, une coédition Bibliothèque nationale de France et Brepol. Donc c'est vraiment un gros livre, hein, plus de 600 pages, de 2 kilos, vraiment un gros travail. Peut-être un petit clin d'œil, j'ai choisi cet extrait de Campra parce que c'est exactement le passage qui figure, en tout cas le début de cette partition, qui figure en couverture. Pourquoi c'est vous qui l'avez choisi cette...
Oui, parce que d'abord je trouvais que cette page de titre calligraphiée était vraiment très belle et très représentative de tous ces ouvrages qui sont dans ces collections qu'on décrit dans le livre.
Ouais. Alors justement, donc, l'origine des collections, donc le département de musique de la Bibliothèque nationale de France est vraiment très riche de milliers de partitions. À partir de quel moment, c'est au XVIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, se constitue vraiment une collection musicale?
Oui, la collection, justement, c'est vraiment ce qu'on a étudié dans le livre, ce qu'on a voulu mettre en évidence. Elle commence vraiment à se constituer à partir de la fin du XVIIe, d'abord grâce au dépôt légal qu'on ne soupçonnait pas, mais qui commence vraiment à cette époque-là. Et donc dépôt des partitions imprimées à cette époque-là. Et puis au XVIIIe siècle, alors avec deux collections fondatrices qui sont la collection Sébastien de Brossard et le fonds de manuscrits de Marc-Antoine Charpentier. Et on a cherché dans le livre à mettre en évidence d'autres collections qui étaient beaucoup moins connues et à les explorer et à les présenter.
Alors, ce qui signifie, Laurence de Cobert, que... toutes les partitions qui, à l'époque, étaient publiées en France, un exemplaire devait être remis donc dans cette bibliothèque, c'est ça?
Oui, théoriquement, à partir de 1600. Alors, bien avant, mais disons que c'est vraiment à partir de 1684 que ça commence.
D'accord.
Et mes collègues qui ont travaillé sur ce sujet, vraiment, ont dépouillé les registres de dépôt du XVIIIe siècle.
Oui, vous citez vos collègues, effectivement, Laurence de Cobert, parce que c'est un ouvrage collectif qui réunit une bonne quinzaine, une petite vingtaine de chercheurs, de musicologues que l'on connaît, comme Catherine Massip, Catherine Cessac, Jean Duron, Thomas Vernet, Thomas Lecomte et plein d'autres, que l'on a toujours plaisir et intérêt à lire. Alors, question tout simplement basique et concrète, où est-ce qu'elle était physiquement, cette bibliothèque Laurence de Cobert?
Alors, à quelle époque, vous voulez dire?
À l'origine, voilà. C'est
alors,
ça,
à l'origine, en fait, c'était la bibliothèque royale,
qui est l'ancêtre. Donc, à Versailles?
À Paris. L'ancêtre de la Bibliothèque nationale.
Oui.
Et elle était à Paris, elle a déménagé. Alors, au XVIIe siècle, elle était rue Vivienne.
D'accord.
Donc, pas très loin de là,
où elle est aujourd'hui. Oui.
Et au début du XVIIIe, enfin, vers 1720-21, elle a déménagé dans le quadrilatère Richelieu, où elle est actuellement. Et elle est restée là. Alors, le département de la musique, lui, s'est installé rue de Louvois en 1964, mais il est revenu depuis 2 ans dans le quadrilatère rue de Richelieu. Oui.
Ensemble correspondance dirigé par Sébastien Dossé, c'était un extrait de Cécilia Virgo et Martyr de Marc-Antoine Charpentier, compositeur que vous avez cité, Laurence de Cobert, et ces fameux mélanges, c'est 28 volumes je crois.
28 volumes,
c'est
oui,
ça. Mais alors, ce n'est pas de la musique qui est imprimée pour le coup, ce sont
non,
des
non.
manuscrits.
Des manuscrits qui sont entrés, qui ont été achetés au neveu de Charpentier, qui en avait hérité, qui les possédait, qui sont entrés à la bibliothèque en 1726, je crois. Et c'est grâce à cet achat qu'on conserve aujourd'hui la musique de Charpentier. Oui. Et d'ailleurs, Catherine Sessac, qui a écrit un article, parle de ce phénomène extraordinaire que cet achat, parce que sinon on aurait perdu toute cette musique.
Ouais. Alors donc, on imagine que le fond est constitué de musique française, mais pas que en fait.
Non, c'est ça. Alors, évidemment, la musique française et la musique lyrique est vraiment constitue une grande partie des fonds de cette époque. Mais ensuite, les entrées, comme on le voit avec ces collections qu'on a étudiées, les arrivées d'ouvrages dépendent des goûts, en fait, des personnalités qui les ont rassemblées. Donc, on a de la musique italienne. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, beaucoup de musique instrumentale qui correspond aussi à la pratique et à la
L'évolution du goût et des pratiques.
Voilà, c'est ça. Et de l'édition aussi, à cette époque-là, puisqu'il y a quand même beaucoup de musique éditée. Musique italienne, même si l'opéra italien n'était pas joué en France, on va voir que certaines personnes, quand même, enfin, n'étaient pas jouées officiellement à l'Académie royale, certaines personnalités l'appréciaient et faisaient venir des partitions, achetaient, faisaient copier, etc.
Ouais. Alors, vous avez évoqué, Laurence de Cobert, le mot collection, c'est-à-dire que au fur et à mesure des années, le fonds de la Bibliothèque nationale de France, enfin, ce qui ne s'appelait pas encore la Bibliothèque nationale de France, s'est enrichi donc de dépôts de certaines collections de particuliers, évidemment, membres de l'aristocratie, qui avaient constitué des collections de musique qui arrivaient par la suite, après leur décès, à la bibliothèque, c'est ça ?
Voilà. Alors, les arrivages, se sont faits beaucoup après la Révolution.
D'accord.
Les confiscations révolutionnaires. Et vraiment, il y a de gros ensembles qui sont étudiés, qui viennent de là, notamment tout ce qui concerne la famille royale et des grandes familles nobles, etc. Oui.
Mi credi fedele, sol questo m'affanno, chissà chi degnò, che fai tacere, chissà chi degnò.
Max Emmanuel Senchik, Harmonia Athénéa, dirigé par Georges Petrou, un extrait de Siroé de Johann Adolf Hasse. Laurence de Cobert, Hasse, un compositeur qui figure justement dans ses collections parmi d'autres compositeurs donc étrangers.
Oui, parce que nous avons découvert que la dauphine Marie-Joseph de Saxe, qui était à Versailles dans les années 1760, faisait venir de la musique de Dresde, où elle était originaire, et c'était son compositeur
favori.
Voilà.
Oui. Donc, Donc c'est souvent par des jeux aussi comme ça de relations personnelles qu'a pu s'enrichir cette collection de la Bibliothèque nationale de France.
Oui, tout à fait, par goût personnel, ouais, comme ça, on le voit avec la collection aussi de la bibliothèque de Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, aussi vraiment est une collection très personnelle, oui.
Et puis alors après, donc, la fondation du conservatoire en 1795, et puis au XIXe siècle, il y a un certain Jean-Baptiste Wecquerlin qui a une place, je crois, très importante dans la façon dont ce département a pu s'enrichir.
Oui, alors le conservatoire, les collections du conservatoire, les collections anciennes, vont être intégrées à la Bibliothèque nationale au XXe siècle, et Wecquerlin au XIXe avait vraiment le souhait de recueillir la musique ancienne qui ne figurait pas encore dans les collections de la bibliothèque du conservatoire. Et donc, c'est ce qu'on montre dans plusieurs articles du livre, la manière dont il allait dans les ventes, où il envoyait aussi des émissaires à l'étranger pour récupérer des ouvrages, un par un, pour enrichir très précisément ce qu'il n'avait pas encore dans la bibliothèque du conservatoire.
Oui, effectivement, voilà. Si on reproduit des catalogues de ventes, on voit ses notes, effectivement, sur telle ou telle œuvre qui peuvent l'intéresser. Il y a notamment certains mêmes opéras de Mozart qui n'était pas encore connu à l'époque, ou d'autres compositeurs.
Oui. Donc il vérifiait vraiment scrupuleusement ce qui manquait et il achetait ses documents, quelquefois sur ses propres deniers, il se faisait rembourser ensuite. Et c'est comme ça que les collections se sont enrichies de manière si intéressante, vraiment, pas n'importe comment, mais vraiment de manière pensée, grâce à des gens comme Wecquerlin. Oui.
Très bien, merci beaucoup Laurence de Cobert. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez co-dirigé avec Denis Herlin, qui vient de paraître aux éditions de la Bibliothèque nationale de France et Brepols, aux origines des collections musicales de la Bibliothèque nationale de France 1680-1815.
À réécouter sur francemusique.fr.